Président, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Secrétaires Généraux, Mesdames, Messieurs, ma présence à votre Assemblée Générale d'automne me donne l'occasion de vous dire l'attention particulière que le Président de la République et le Premier ministre portent aux artisans de notre pays. Elle m'offre aussi l'opportunité de partager avec vous l'ambition qui est la mienne pour les artisans français depuis ma nomination au sein du gouvernement. Mesdames, Messieurs, m'adresser à vous tous aujourd'hui en qualité de ministre est pour moi, vous vous en doutez, assez singulier. Alors que j'ai souvent accueilli des ministres, 11 en 17 ans de présidence, à l'occasion des différentes assemblées générales de ce qui était à l'époque la PCM. Lors de ma nomination au gouvernement le 6 juillet dernier, j'ai ressenti avec intensité l'honneur qui m'était fait. Et depuis lors, je ressens surtout chaque jour la responsabilité qui est la mienne lorsqu'il faut prendre des décisions, souvent lourdes de conséquences, responsabilité parfois frustrante quand il faut accepter des arbitrages, mais surtout exaltante et passionnante, alors que l'opportunité m'est donnée, au sein d'une vie de travail, au seuil d'une vie de travail et d'engagement, de participer à la conduite des affaires de mon pays, confronté à une crise sanitaire, économique et sociale inédite, qui appelle de la solidité et de l'expérience. C'est donc dans cet état d'esprit lucide, mobilisé et responsable que je souhaite vous faire part des grands défis qui sont devant nous aujourd'hui. Je dis bien devant nous, car les défis à relever sont immenses et ne laissent pas la place aux querelles ou aux dissensions, mais appellent au contraire à l'unité et à la cohésion de tous, particulièrement de la part des établissements publics de l'État, que sont les chambres de métiers et de l'artisanat, pour écouter, conseiller, accompagner les entreprises artisanales. Vous comprendrez aisément que la priorité fixée par le président de la République a comme premier objectif de préserver l'essentiel, c'est-à-dire la santé des Français. Mais ce principe étant posé, j'ai la conviction que c'est en soutenant les entreprises que l'on peut garantir ce qui est indispensable. La solidité de l'économie du pays dont nous portons ensemble sur nos épaules un pilier essentiel, celui de l'artisanat, et des entreprises de proximité. Dans ce contexte si particulier, en ce qui concerne les entreprises artisanales et les chambres de métiers, quatre sujets me paraissent prioritaires. Premièrement, surmonter la crise en étant attentif à la situation des plus fragiles. Deuxièmement, accompagner la transformation des artisans et réussir la relance. Troisièmement, améliorer la formation des artisans et des travailleurs indépendants. Quatrièmement, réussir la régionalisation en affectant les ressources au plus près des besoins des entreprises. En ce qui concerne le premier sujet, surmonter la crise en étant attentif à la situation des plus fragiles. Sur ce point, l'action du gouvernement repose sur deux axes majeurs. L'accompagnement économique rapide et massif, auquel nous consacrons chaque mois plusieurs dizaines de milliards d'euros du budget de la nation. Et un soutien de proximité dont vous êtes le maillon essentiel. L'accompagnement économique, chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, exonération, report de cotisations sociales, crédit d'impôt loyer, plan tourisme, mesures prenant en compte la situation particulière de chaque branche, accès simplifié à la commande publique locale, toutes ces mesures sont des conquêtes âprement négociées dans le débat interministériel. La France, je le dis ici, est le seul pays en Europe à avoir aidé aussi massivement et dans la durée les entreprises, en particulier les TPE, les PME, les entreprises artisanales. 7,5 milliards d'euros versés au titre du Fonds de solidarité à près de 2 millions d'entreprises de mars à juillet, auxquelles s'ajouteront 6 milliards en novembre. Et je précise qu'en ce qui concerne la dotation du mois de novembre, elle peut être accessible pour chaque entreprise à partir du 4 décembre. C'est une compensation jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et la semaine dernière, Bruno Le Maire a même indiqué qu'en ce qui concerne le mois de décembre, au-delà des 10 000 euros pour ceux qui restent fermés, nous irons jusqu'à la prise en charge de 20% du chiffre d'affaires pour permettre de payer la totalité des frais de fixe. À côté du Fonds de solidarité, dont je précise il va être disponible sur le niveau 1, c'est-à-dire le niveau le plus simple d'accès et le plus rapide en versement. Vous savez également qu'il y a eu le PGE. Aujourd'hui, près de 130 milliards. Sur ces 130 milliards, 95% des entreprises en bénéficiant sont des petites entreprises. Il y a eu également l'activité partielle, 14 millions de salariés soutenus grâce à l'activité partielle, soit la moitié de la population active du pays. On peut comparer avec un pays moderne, les États-Unis, en 7 semaines seulement, entre mi-mars et début mai, près de 40 millions de personnes se sont inscrites au chômage, soit plus de 21% de la population active. Et ce n'est pas le chômage accompagné comme en France. Le résultat de cet accompagnement économique voulu par le président de la République, qui a été repris à plusieurs reprises, le quoi qu'il en coûte, sont là. Même s'il faut regarder lucidement ce qui est devant nous. Jusqu'ici, je dis bien jusqu'ici, le tissu artisanal a globalement tenu et s'est maintenu. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Mais globalement, le tissu s'est maintenu. Néanmoins, je suis parfaitement conscient que, effectivement, beaucoup de nos entreprises artisanales ont des difficultés. Que les entrepreneurs eux-mêmes ont des difficultés personnelles. Et naturellement, je sais bien que les périodes de confinement et de fermeture administrative sont souvent vécues comme injustes. Parce que les entrepreneurs ont souvent, même toujours pour la plupart d'entre eux, fait le travail en termes de sécurité sanitaire. Ces fermetures administratives sont contraires aux valeurs portées par les entrepreneurs et en particulier contraires à la valeur travail qu'ils défendent. Dans ce contexte, j'ai noté les milliers d'appels sortants passés à vos ressortissants, 30 000. C'est bien, certes, mais permettez-moi de vous dire que je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. 30 000 sur 1 300 000, je pense qu'on peut encore aller plus loin. Et simplement vous dire que depuis ma nomination, il n'y a pas une seule semaine sans que j'échange avec des artisans dans les déplacements et qui me disent, pour une grande partie d'entre eux, encore aujourd'hui, ne pas connaître le dispositif auquel ils ont droit. Nous le savons tous ici, énormément d'artisans sont à la recherche d'informations. Et selon leur secteur d'activité ou leur territoire, ils n'ont pas tous le même accès à ces mêmes informations. Je vous invite à vérifier en faisant un sondage autour de vous, à mobiliser vos équipes sur cet objectif absolument essentiel à mes yeux. Le soutien de proximité. Chacun ici sait que les artisans sont des hommes et des femmes qui se donnent beaucoup à leurs tâches, mais qui se sentent aussi souvent seuls. N'avoir aucune perspective de servir le moindre client pendant des semaines, tandis que les charges fixes demeurent et qu'il y a des bouches à nourrir à la maison, si souvent très lourd à supporter. Si l'aide financière est essentielle, elle ne peut pas être l'unique réponse aux situations de détresse individuelle des artisans. Je veux le dire ici avec gravité. Nous devons tout faire pour éviter des drames personnels, familiaux et humains dans les territoires. Le quoi qu'il en coûte doit également s'appliquer à l'accompagnement individuel et personnel des artisans. L'État prend sa part avec un numéro unique pour les coûts des dirigeants d'entreprise en difficulté. Les chambres de métiers de l'artisanat ont également un rôle de premier plan à jouer partout, dans chaque département, au plus près du terrain. C'est là que l'on mesure la réelle proximité de l'action. La prévention et la détection des entreprises en difficulté. Il y a un travail essentiel à mener, et j'en fais une de mes priorités, pour mieux détecter les premières difficultés des entreprises et appliquer des solutions adaptées et immédiates, afin de ne pas laisser se dégrader les situations. Je me félicite d'avoir eu avec le garde des Sceaux un échange très constructif et nous allons ensemble être mobilisés pour un travail commun pour trouver les solutions adaptées. Deuxième sujet, accompagner la transformation des artisans et réussir à la relance. ce sujet qui est aussi un défi. C'est celui qui me donne l'occasion de partager avec vous l'ambition qui est la mienne pour les artisans français. À la fois, préserver les traditions et les savoir-faire ancestraux, mais aussi saisir toutes les opportunités nouvelles pour faire évoluer leur métier et séduire les clientèles plus exigeantes, plus nombreuses, plus connectées. Au premier rang des opportunités, la numérisation des entreprises est un impératif catégorique. La crise touche particulièrement les entreprises artisanales, les TPE, les PME, et a mis en avant leur besoin urgent de se numériser, non pas pour remplacer le commerce physique ou la présence territoriale, mais pour augmenter et faciliter leur vie quotidienne. C'est aussi la possibilité de pouvoir favoriser leur montée en gamme et en compétitivité. Et le plan de relance prévoit un programme ambitieux pour les accompagner dans leur transition numérique avec des dispositifs adaptés à leurs besoins. La numérisation des entreprises artisanales est un enjeu de compétitivité et de productivité pour notre économie. La digitalisation des process internes, la communication ou encore les modes de distribution des entreprises offrent un potentiel de croissance à conquérir. À ce jour, les indicateurs du numérique ne sont pas satisfaisants. Seulement 34% des dirigeants d'entreprises de 1 à 9 salariés déclarent que la transformation numérique est déjà déployée ou en cours de déploiement. La France est seulement 15e dans le classement des pays européens sur 28 au niveau de la compétitivité numérique et 11e au niveau d'intégration des technologies numériques par les entreprises. L'ambition du gouvernement en matière de numérisation n'est pas de faire un petit pas de plus, mais bien de provoquer un saut qualitatif et quantitatif majeur, dans lequel 1 million de TPE, et parmi elles, je l'espère, de nombreuses entreprises artisanales, s'engageront avant le 31 décembre 2021, de façon à gagner cette bataille de la compétitivité numérique. La relance voulue par le président et par le Premier ministre passe également par un soutien fort au commerce et à l'artisanat dans les territoires. Alors que la crise touche directement les très petites entreprises, notamment dans les secteurs du commerce et de l'artisanat, la relance doit pouvoir les accompagner spécifiquement en participant à la redynamisation de nos territoires et des centres-villes. Sur les 100 milliards du plan de relance, 40 milliards bénéficieront directement ou indirectement aux TPE-PME, et sur ces 40 milliards, 25 milliards directement aux petites et moyennes entreprises. La crise sanitaire a été particulièrement dure pour les établissements et a fait l'objet de fermetures administratives. Malgré les mesures de soutien d'urgence mises en place par le gouvernement, pour accompagner la reprise de ces très petites entreprises, notamment des secteurs du commerce et de l'artisanat, plusieurs outils sont prévus afin d'en faire des acteurs de la redynamisation des territoires. Il s'agit notamment d'accompagner la mise en place de foncières en soutenant leur exploitation en vue de résorber la vacance commerciale. Cette mesure permettra de redynamiser des centres-villes moyennes avec la rénovation de 6000 cellules commerciales accompagnées par une centaine de foncières qui seront naturellement ces cellules commerciales proposées à des loyers modérés. Et là, je compte bien que les chambres de métiers artisanat, au-delà de la rénovation de ces locaux, puissent tout mettre en œuvre pour trouver les entreprises qui seront abritées dans ces locaux, de façon à ce que dès que la mise en œuvre sera faite, ça puisse commencer à avoir des effets positifs. Les entreprises du bâtiment vont être particulièrement concernées par les mesures de soutien à l'amélioration de la performance énergétique des équipements publics, comme des logements privés. Ces entreprises bénéficieront également de l'allègement des contraintes pour accéder à la commande publique. J'ai matérialisé mon propos. À deux reprises, au mois de juillet et dans la loi de finances, nous sommes passés maintenant jusqu'à 100 000 euros, le montant en dessous duquel il n'est plus nécessaire pour les collectivités locales de faire des marchés publics. Donc c'est du temps gagné et c'est normalement du travail pour les entreprises de proximité. Les entreprises elles-mêmes seront accompagnées pour la réalisation des travaux d'amélioration énergétique de leurs locaux. C'est la première fois qu'on met des moyens pour que les entreprises artisanales puissent rénover leurs locaux dans le cadre d'un plan de rénovation énergétique. et dans leur process de production. Troisième sujet, améliorer la formation des artisans et des travailleurs indépendants. En ce qui concerne la formation des apprentis, le gouvernement a apporté un soutien massif aux employeurs d'apprentis grâce aux aides décidées dans le cadre des plans de relance. Vous savez, 5 000 euros pour la première année de contrat d'un apprenti mineur, 8 000 pour un apprenti majeur. Grâce à cette action volontariste du gouvernement, à la mobilisation des chambres de métier, des centres de formation, et si vous permettez de le dire, des employeurs eux-mêmes, la rentrée 2020 a été préservée. Ainsi, fin octobre, l'effectif d'apprentis dans les CFA des chambres, à ma connaissance, est en hausse de 3,5% en moyenne par rapport au 30 octobre 2019. L'objectif annuel des 100 000 apprentis formés est quasiment atteint. Au niveau national, les effectifs d'apprentis atteignent, voire dépassent le niveau atteint fin 2019, année qui avait pourtant déjà vu le nombre d'apprentis progresser de 16%. Pour maintenir la bonne dynamique actuelle de l'apprentissage, le gouvernement a décidé de ne pas modifier les coûts contrats qui régissent le financement des centres de formation d'apprentis avant la rentrée 2022. C'est une décision forte, qui, je sais, était attendue. Elle n'était pourtant pas évidente à prendre, car les dépenses augmentent significativement du fait des aides et des niveaux des contrats déterminés par les branches. Et de l'autre côté, les ressources diminuent du fait de l'impact de la crise sur la masse salariale et donc de la baisse de la collecte de la contribution pour la formation professionnelle. C'est plus de 2 milliards d'euros qui, a priori, manquaient pour équilibrer les coûts contrats. La décision a été prise. D'ailleurs, je rappelle que dès le vote de la loi, il était prévu que le coût contrat était fixé pour 2 ans. Et donc, cette révision du coût contrat sera d'actualité. Chacun d'entre vous ne doit pas être surpris parce que c'était prévu. Pour la formation et le paiement de ces coûts contrats, Monsieur le Président, vous avez évoqué la question des OPCO, avec 2 sujets. Le premier sujet, la complexité par la diversité des outils informatiques des OPCO. J'ai évoqué le sujet avec Elisabeth Borne. C'est vrai que moi je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir un seul outil informatique pour les 11 OPCO. C'est pas dans cette maison que je dirais que vous savez très bien la difficulté d'un de pouvoir réussir à harmoniser les systèmes informatiques. Mais enfin, l'objectif est fixé. Deuxième sujet que vous avez évoqué, la durée trop longue des paiements des factures faits par les centres de formation. Alors, sûrement qu'il y a des délais qui sont aujourd'hui trop longs. C'est la première année où les OPCO sont confrontés à ces dispositifs. Et naturellement, je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir de la rapidité, même si des avances ont été faites sur ces contrats, que donc aujourd'hui, on est plutôt sur le paiement des soldes, mais moi, j'accepte le fait qu'on doive s'améliorer. Et je pense que si on a un outil commun, ça permettra d'améliorer le dispositif. Sur la formation des artisans eux-mêmes. Les impacts de la crise sanitaire sur les entreprises artisanales rendent encore plus urgent et nécessaire les fonds liés à la formation ou à la reconversion professionnelle. C'est un sujet important, la reconversion professionnelle. Moi, je ne me résous pas à ce qu'une entreprise qui ferme se retrouve devant un précipice. Il faut qu'on trouve des solutions pour accompagner les entreprises. Et d'ailleurs, moi, je suis preneur d'idées. J'entends ici ou là dire il faudrait donner l'assurance chômage aux travailleurs indépendants. Bon, vous savez que c'était dans le programme du président de la République. Vous savez aussi, sûrement, que les partenaires sociaux ont décidé de la façon dont ça devait être mis en œuvre. Et les partenaires sociaux, du côté employeur, n'ont pas souhaité cette augmentation de cotisation. Les salariés étant d'accord sur le fait qu'il fallait pas qu'il y ait des phénomènes. Quelqu'un qui s'inscrit pendant 2 mois il déclare 300 euros, est-ce qu'on lui donne pendant un an d'assurance chômage? Donc moi, je suis preneur d'idées pour une raison très simple. En ce qui concerne les salariés, qui déclenche le fait que le salarié est au chômage? L'employeur. En ce qui concerne le travailleur indépendant, qui déclenche cette période de chômage? Lui-même. Je suis preneur pour que vous m'expliquiez comment on évite le fait que quelqu'un qui a considéré pendant 9 mois bien travailler considère qu'il peut partir pendant 3 mois et puis bénéficier de l'assurance chômage. Donc donnez-moi les critères de choix qui permettent de dire comment on déclenche la période d'assurance chômage, qui paye les cotisations, combien, il y aura un coût, et qu'est-ce qu'on donne comme argent. Je suis preneur, et les yeux dans les yeux avec ceux qui ont des propositions, je suis prêt à en débattre. Et je préférerais ça que des observations qui consistent à dire on fait rien. Pas qu'on fait rien, c'est que le dispositif, s'il était facile, je vous assurer que ça soit mis en place. Mais, encore une fois, j'accepte de ne pas avoir le monopole des idées, et comme c'est un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé comme beaucoup d'autres, je suis preneur sur les positions, je dis bien, sur le moment du déclenchement, sur la cotisation, sur le montant qui va être versé et sur la durée. Et merci à celle ou à celui qui m'apportera la proposition. Je pense que le président en sera très heureux. Le plan de relance implique également des investissements majeurs dans des secteurs. La rénovation énergétique, je l'ai dit, mais dans beaucoup d'autres, qui vont nécessiter une formation accrue des professionnels ou des futurs professionnels. Je le dis clairement, je serai donc vigilante à ce que les conseils de la formation et le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale puissent avoir les ressources nécessaires pour financer aux artisans et leurs conjoints les formations dont ils ont besoin. Mais aussi que la totalité des fonds perçus soit réellement mobilisée en veillant à ce que les coûts de gestion et les coûts de formation permettent d'augmenter fortement le nombre de bénéficiaires. Je sais que le transfert de la collecte des contributions pour la formation des DRFIP aux URSSAF en 2018 a suscité et suscite encore beaucoup de difficultés de mise en œuvre. Bon, d'ailleurs, toutes n'ont pas encore été totalement résolues. Et en lien avec mes collègues Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, je travaille sur le sujet. Il est, de l'autorité publique, j'espère que vous l'avez bien enregistré, que déjà depuis 2 ans, il y a un projet de réforme en cours sur la mise en œuvre du financement de la formation continue, aussi bien au niveau du Conseil de la formation que des FAF. Et donc un rapport a été produit, et dans les prochains mois, il y aura des sujets et il y aura des décisions qui devront être prises. J'ajoute à ce troisième sujet consacré à la formation, mon souhait que chaque chambre de métier soit exemplaire dans l'insertion des jeunes. Je vous invite à prendre toute votre part, et même un peu plus, à la mise en œuvre du plan « Un jeune, une solution ». Pour un jeune, s'engager dans la voie d'apprentissage et embrasser cette carrière, c'est plus qu'une solution. C'est une opportunité, vous savez, c'est une chance de réussite, et pour les plus courageux et les plus créatifs, une garantie de succès. Et donc, il est important, en particulier dans les quartiers les plus difficiles, que chaque chambre de métier fasse l'effort d'aller à la rencontre des jeunes. Et je l'ai dit avant, les ministres, donc je le redis, il faut absolument qu'on arrive à résoudre cette difficulté, qui est plus qu'une difficulté, qui est une anormalité d'avoir des centres de formation dans lesquels il y a des places libres et des jeunes qui sont sans emploi. Donc ça, c'est un enjeu qui, pour l'instant, reste un objectif qui n'est pas encore atteint. Le quatrième sujet, réussir la régionalisation du réseau en affectant les ressources au plus près des besoins des artisans. Bon, ce sujet a fait déjà couler beaucoup d'encre, et pas seulement depuis 6 mois, hein. Depuis 2009, ça fait couler de l'encre. Et je veux ici être clair avec vous. Il n'est plus temps de chercher à rejouer le match de la loi Pacte. Vous savez, la décision a été prise avant que je sois ministre. Elle a été prise et elle ne sera pas remise en cause. La réforme du réseau des chambres de métiers, sa régionalisation, correspond à la volonté du gouvernement et du législateur, et cette réforme sera mise en œuvre. Je souhaite simplement revenir avec vous à l'esprit de cette réforme et en partager à nouveau le sens profond. Régionaliser les chambres, ce n'est pas, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, vouloir éloigner du terrain et bureaucratiser. C'est précisément le contraire. Ma mémoire est suffisante pour rappeler tout ce que j'ai déjà entendu sur ce sujet depuis de nombreuses années. Regrouper les fonctions administratives, le back-office, quand on dit à Bercy, au niveau régional, c'est précisément permettre au niveau local de se concentrer sur la relation avec les artisans, sur les services à leur rendre pour apporter la réponse la plus adaptée à leurs besoins. Régionaliser, c'est non seulement donner un sens nouveau à l'action territoriale, mais c'est surtout lui donner plus d'impact et plus de force en gagnant en visibilité auprès des autres acteurs des territoires. Les élections municipales sont désormais passées, les exécutifs locaux sont en place et ils sont, j'en suis persuadé, en attente pour conclure des partenariats durables avec les chambres de métiers et de l'artisanat, par l'intermédiaire de commissions territoriales, proches du terrain, avec les EPCI, que vous mettrez en place dès le premier semestre 2020. Car, rassurez-vous, les décrets sont prêts et le journal officiel vous les livrera bientôt. Je n'ignore pas que la parfaite réussite de ce processus vertueux de régionalisation passe aussi par une adaptation de vos organisations, qui soit expliquée et comprise par les équipes qui auront à le conduire. Je vous invite à ce titre à privilégier un dialogue social exigeant et responsable, où chacun se sent écouté et respecté, pourvu qu'il contribue loyalement à l'œuvre commune. Je le dis, mais je pense que comme ça fait au moins 3 ans que tout le monde sait que cette réforme va avoir lieu, le travail doit aujourd'hui quasiment être terminé. Mesdames et messieurs, en 2021, je n'ignore pas que vous aurez aussi à faire face à l'échéance des élections dans chacune de vos chambres et que beaucoup ont déjà cela en tête. Je sais aussi que certains auraient aimé que ces élections soient reportées et j'assume ici devant vous la décision que nous avons prise avec Bruno Le Maire de maintenir le calendrier électoral en l'état, car nous considérons que rien de sérieux ne justifie qu'il soit en soi autrement. Personne ici ne doit craindre d'élection. C'est un rendez-vous démocratique permettant pour certains de faire valoir un bilan et pour d'autres de présenter des projets. Je souhaite néanmoins partager avec vous ma forte préoccupation, qui n'est pas nouvelle, sur l'abstention à l'occasion de ces élections et vous inviter à relever ce défi de la participation, en particulier dans quelques départements où le taux de participation est inférieur à 5%, ce que chacun doit bien comprendre comme étant difficilement explicable et qui nécessite sûrement une mobilisation meilleure que celle qui a été connue dans les précédentes élections. Enfin, Monsieur le Président, j'entends votre demande sur le sujet budgétaire pour obtenir une rallonge à laquelle vous estimez avoir droit. Mais permettez-moi de donner quelques éléments. Un accord a été pris entre l'État et les réseaux des chambres de métiers et d'artisanat. Et il faut que chacun regarde bien les mots comme étant des mots qui veulent dire quelque chose. On parle d'un plafond. Quand on dit un plafond, ça ne veut pas dire que c'est le montant qui va être touché. Et j'ai fait regarder là. Auprès de la DGFiP, les montants de la recette. Ce qu'il me dit aujourd'hui, c'est que la recette perçue par l'État est inférieure au plafond qui était prévu. Et ce qui a été reversé aux chambres, c'est ce qui a été perçu par l'État. On va regarder, il y a une deuxième lecture à l'Assemblée, mais en tout cas, c'est les éléments d'information que j'ai aujourd'hui. Par ailleurs, dans le cadre du contrat d'objectif, vous savez, Monsieur le Président, on en a parlé ensemble. Il était prévu que vous mettiez 2,5 millions au niveau de la communication, ce qui n'a pas été mis en place. Je ne vous repose pas, vous y étiez d'accord. Hein. Donc c'est 2,5 millions, ça correspond quasiment aux 2,7 millions que vous réclamez. Et j'ai décidé ces derniers jours d'accorder des moyens supplémentaires dédiés à l'accompagnement des chambres de métiers sur le dossier de la transformation et de la numérisation. Naturellement, c'est un peu différent. Toucheront cet argent ceux qui font correctement les choses et qui me paraît être un bon principe. Celui qui visitera et accompagnera des entreprises aura plus de moyens. Je pense que c'est aussi l'objectif du COP, c'est de réussir à attribuer des montants au regard d'actions qui sont à réaliser. D'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, bon nombre de dispositifs vont être accessibles aux chambres de métiers. Il ne tient qu'à vous d'y répondre pour aller chercher des ressources supplémentaires et surtout d'accompagner encore plus fortement les entreprises artisanales. Sur ces quatre grands sujets, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, il y a autant de défis que je vous invite à relever ensemble. J'entretiens avec vous depuis déjà longtemps une relation d'une grande franchise. Certains pourront considérer que c'est une bonne méthode. En ce qui me concerne, je ne vais pas trop changer. Ce qui nous a conduit à nous dire les choses. Donc je continuerai à le faire. Depuis que je suis entré au gouvernement, c'est arrivé que les échanges aient pu être assez vivaces. Pourquoi pas? En tout cas, mon tempérament, il est très clair, nous devons avancer, et il vaut mieux se dire les choses que de ne pas les dire du tout. Et le fait qu'on puisse se dire les choses, y compris quand il peut y avoir des désaccords, ça me semble en tout cas un gage d'efficacité. Moi, je veux simplement que chacun sache ici que je suis avant tout quelqu'un qui est prêt à l'écoute, qui prendra le temps nécessaire de l'écoute et du dialogue. Et je suis convaincu que notre relation, celle du réseau des chambres de métiers et du gouvernement, ne peut pas se concevoir comme un rapport de force. Je vous le dis, bien au contraire, comme une volonté partagée de servir au mieux les artisans français. Il y a encore beaucoup de sujets à aborder. Il faut que chacun tienne sa place, maintienne son rang et respecte les règles. Alors, sur les différents sujets sur lesquels nous aurons à travailler, si vous en êtes d'accord, et naturellement tous les sentiers de la vie quotidienne des artisans. Parce qu'il y a ce qui est visible aujourd'hui. Ce qui est visible, c'est ce qu'on est obligé de faire à cause de la crise. Mais croyez bien qu'avec mes conseillers, nous travaillons au-delà de ce qui est visible sur l'environnement global des entreprises. Réglementaire, fiscal, social, juridique, pour, dès que le président le voudra bien, envisager des améliorations sensibles à l'environnement des entreprises. Il y a aussi d'autres sujets que vous connaissez, les questions de la qualité, les questions de la qualification, du répertoire unique, qui d'ailleurs, de mon point de vue, nécessite encore un grand travail, parce que moi j'ambitionne qu'on aille au-delà du simple centre de formalité des entreprises, qui n'en voit pas que disparaître. C'est ça qui a été voté. Hein. Bon. Je souhaite surtout qu'on puisse avoir un outil qui, au bout du compte, soit l'outil utile pour les entreprises en termes d'information, d'accompagnement, d'accueil. Je suis prêt à regarder avec vous de quelle manière on peut trouver réellement les meilleures solutions. Et donc, moi, ce que je vous propose, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est naturellement d'être à votre disposition, à votre écoute, mais il faut aussi que vous compreniez que justement parce que je suis quelqu'un qui a présidé pendant 17 ans cette maison, je ne peux en aucun cas considérer que cette maison doit bénéficier de privilèges quelconques au sein du ministère. Et donc, j'essaierai de faire au mieux le boulot qui est le mien, en étant avec vous disponible, à l'écoute, volontaire pour vous accompagner, mais aussi exigeant, de façon à ce que ce réseau puisse avoir un avenir, parce que je suis persuadé que les entreprises artisanales en aient besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous souhaitez, il m'est possible de rester un moment, puisque j'ai une demi-heure si vous en avez besoin, à vous accorder pour des échanges à votre disposition.